travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
J'ai déclaré que Davao était la ville la plus dangereuse pour les criminels. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Un criminel a le choix à Davao, entre s'en aller ou rester. S'il reste et continue, je l'enverrai en prison. S'il résiste, je n'économiserai aucune balle pour le tuer.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On admettra aisément que les Philippines, dont nous allons parler ce matin, n'attirent pas fréquemment l'attention des Français. Dans les deux pays qui les ont successivement colonisés, à savoir l'Espagne et les États-Unis d'Amérique, jusqu'à leur indépendance de 1916, dans ces deux pays, on s'y intéresse plus souvent que chez nous, comme il est naturel. Mais voici que l'émergence toute récente, en juin 2016, d'un personnage sulfureux à la tête de l'État, le président Rodrigo Duterte, vient de susciter la curiosité, quelque peu interloquée à vrai dire, de la presse internationale. Car il est annoncé hautement que faisant fi de toutes les exigences d'un état de droit, ce président projetait d'éliminer une centaine de milliers de criminels, trafiquants de drogue ou simples consommateurs, en utilisant, comme il l'avait déjà fait lorsqu'il était maire de la cité de Davao, quatrième ville du pays, en utilisant les services de bandes d'exécuteurs professionnels. Il a annoncé, je cite, que les corps seraient jetés dans la baie de Manille, la capitale du pays. Une partie de cette promesse semble s'être déjà concrétisée. Tant de violences civiles, d'ailleurs apparemment populaires là-bas, stimulent l'envie d'aller en rechercher les racines dans le passé tourmenté des Philippines, et de le faire avec le concours de Romain Bertrand. Directeur de recherche au Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, il s'est acquis en peu d'années la réputation d'un historien hors de pair de cette partie du monde, avec au moins deux ouvrages majeurs consacrés à la rencontre entre Orient et Occident à l'époque moderne, qui lui ont valu d'être le lauréat du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Telle est donc la question que je devrais poser en espagnol ou en anglais. Tant de violence surgit de quelle longue durée?
Sa dernière promesse de campagne était d'en finir avec les droits de l'homme, d'éradiquer le crime organisé et en particulier les trafiquants de drogue avec la manière forte.
Et vous tous qui trafiquez de la drogue, bande de fils de pute, je vais vraiment vous tuer, je n'ai aucune patience pour ça. Pas de place pour vous, soit vous me tuez, soit je vous tuerai.
Promesse entendue par les électeurs, premier enjeu à régler pour Duterte, l'état des prisons. Autre enjeu, la violence électorale à la une, l'assassinat d'un candidat à une élection locale juste avant l'ouverture des bureaux de vote. Les médias philippins ont fait l'inventaire, les violences électorales ont augmenté cette année. Une spécialité aux Philippines, l'illustration d'une violence généralisée où les litiges se règlent aux armes à feu, comme le révèle cette bande-annonce d'une enquête signée Al Jazeera English. Pas de contrôle des armes, 600 000 sont en circulation libre. Résultat, en proportion, il y a bien plus d'homicides par arme à feu qu'aux États-Unis. Une violence alimentée notamment par la quasi-légalisation des tueurs à gages, les mêmes tueurs à gages que Duterte veut utiliser pour éradiquer le crime organisé.
Nous avons entendu un reportage sur la politique du nouveau chef de l'État philippin qui a été publié sur le Figaro FR le 10 mai 2016. Romain Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, nous voilà tout droit dans la violence qui se développe, qui s'affirme, qui s'impose ces jours-ci aux Philippines. Et j'ai le goût, comme je l'ai dit, de vous demander de resituer ça dans la longue durée. Mais peut-être pouvez-vous nous rappeler d'abord quelle est la situation géographique des Philippines pour que nos auditeurs en retrouvent la vérité concrète.
Il faut rappeler tout d'abord que c'est un archipel immense. et qui compte, îlots compris, donc des milliers d'îles. C'est un archipel qui est situé...
7000 îles.
Oui. C'est un archipel qui est situé au point de confluence entre des mondes et un grand désert. Ce grand désert, c'est évidemment le Pacifique. Ces mondes, ce sont ceux de la mer de Chine et par implication du monde chinois. Et puis, de l'autre côté, du côté de l'ouest, c'est le monde malais musulman. C'est donc un territoire immense et qui, au commencement des présences espagnoles, qui vont si durablement affecter son histoire, est un territoire de jungle, de mangrove, d'un abord extrêmement difficile.
L'originalité de votre regard sur les Philippines dans la longue durée, Romain Bertrand, c'est que vous êtes attaché à vous libérer de la tentation historiographique traditionnelle qui était de regarder exclusivement de l'Occident. Vous proposez une symétrie, ce qu'on appelle maintenant, dans notre jargon d'historien, une histoire connectée. Vous avez pris pour un de vos livres, que vous appelez l'histoire à part égale, vous avez pris cette épigraphe qui vient d'un traité de Java occidental de 1518. Si tu as une question à propos de la mer, pose-la au poisson. Si tu veux en savoir plus sur le parfum et la douceur sucrée des fleurs, va-t'en le demander aux abeilles. Je ne sais pas si Duterte est une abeille, mais en tout cas, notre conversation va s'organiser en tâchant de regarder les Philippines de l'intérieur pour comprendre la force de cette violence.
Oui, tout à fait. Donc à partir de ces terrains insulindiens, malais, que sont l'Indonésie et les Philippines, eh bien c'est un questionnement sur la façon dont, évidemment, l'Europe a écrit l'histoire de ses conquêtes et dont on peut aujourd'hui, par des voies de méthode qui restent toujours à trouver et à inventer, essayer de faire droit et place dans le récit à ce que ces sociétés lointaines ont aussi dit à propos d'elles-mêmes et le cas échéant à propos des Européens qui évidemment s'y sont rendus pour les exploiter et les piller, mais dans un premier temps s'y sont rendus comme des intrus et n'ont constitué que des présences interstitielles ou parasitaires dans un monde asiatique qui était puissamment texturé par des civilisations de haute antiquité, des États puissants. Donc les Portugais dans un premier temps, les Hollandais dans un second temps, puis d'ailleurs les Espagnols dont nous allons parler aux Philippines à la fin du XVIe siècle, eh bien ce ne sont que quelques grappes d'intrus qui tentent désespérément de s'accrocher au rivage de ces sociétés, mais qui ne transforment en rien la trajectoire au long cours de ces sociétés, du moins pas dans un premier temps. Il faut longtemps pour que l'Europe compte en Asie.
Les récits des historiens occidentaux, inspirés par ceux des voyageurs, sont en général construits de façon binaire. Les occidentaux arrivent, les autres sont unis dans leur refus. Alors que si on voit les choses comme vous y employez, du côté de ceux qui sont envahis, tout est différent. Ils sont eux-mêmes au centre de jeux de force très compliqués, d'affrontements de langues de toutes sortes. Et cela, c'est très nouveau.
Alors, vu de là-bas, pour ainsi dire, c'est-à-dire de Java, ou aussi bien de Sumatra ou des Philippines, dans un premier temps, d'abord, cette connexion avec l'Europe compte peu. Et souvent, le regard en question est un regard qui ne voit pas les Européens. Les Européens sont à ce point quantité négligeable que, par exemple, lorsqu'ils mouillent pour la première fois dans les ports de la côte nord de Java, eh bien, cela ne laisse au sens propre aucune trace écrite, tout simplement parce que la Chine est voilà quelque chose vers quoi on regarde, alors que ces Européens, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ce qu'ils représentent. Ils acquièrent d'ailleurs dans des conditions de marchandage assez rudes et pitoyables quelques centaines de kilos d'un poivre noir de très mauvaise qualité, quand les grandes jonques venues de la Chine impériale passent commande par dizaines de tonnes. Donc ça pèse très peu l'Europe en ces siècles-là, au XVIe et au XVIIe siècle, et il faut finalement assez longtemps pour que l'Europe surgissent, on pourrait dire, à l'horizon des pensées de ces sociétés.
Ils auraient été bien surpris, ces envahisseurs, s'ils avaient su qu'on les voyait si peu. Il n'empêche que leur arrivée ne se fait pas sans une assez forte violence, puisque c'est notre sujet ce matin, la place de la violence dans ces relations. Et on le voit déjà cet extrait de la relation d'Antonio Pigafetta, qui est celui qui a raconté le voyage de Magellan et la mort de Magellan, d'ailleurs, dans les circonstances que nous allons avoir à considérer. C'est une lecture de Vincent Grasse dans Tout un monde de France Culture, le 4 novembre 2007.
Ces gens avaient fait trois bandes de plus de 1500 personnes. Et soudain qu'ils nous aperçurent, à grandes voix écrites, vinrent autour de nous deux bandes de côté et l'autre à l'encontre et de front. Donc, quand le capitaine vit cela, il nous départit en deux, et ainsi nous commençâmes à combattre. Les arquebutiers et arbalétriers tirèrent de loin, quasi une demi-heure. En vain. Voyant cela, le capitaine général envoya aucun des siens brûler les maisons de ces gens pour les épouvanter. Lesquels, voyant leurs maisons brûlées, devinrent plus hardis et âpres, tant qu'auprès d'Issel maison furent tués deux des nôtres. Et nous brûlâmes bien 30 de leurs maisons. Lors, ils vinrent tant furieusement contre nous qu'ils passèrent une flèche envenimée à travers la jambe du capitaine. Par quoi il commanda de nous retirer peu à peu, mais eux s'enfuirent tant que nous demeurâmes de 6 à 8 avec le capitaine. Et ces gens ne nous tiraient en autre endroit, sinon aux jambes, pour ce que les avions nues. Ainsi, partant de lances et pierres qu'ils nous jetaient et tiraient, nous ne pûmes résister.
Rappelez-nous, Romain Bertrand, rappelez-nous les circonstances de cette mort du très grand voyageur Magellan, qui était d'origine portugaise, mais qui avait reçu ses lettres, comment dit-on, qui avait reçu ses ordres depuis la Castille.
Voilà, qui était d'origine portugaise, mais qui, ayant proposé ses services à la couronne portugaise, et l'ayant servi les armes à la main longtemps, une première fois en Asie, à partir de 1505 et jusqu'à la grande bataille de Malacca de 1511, et puis ensuite au Maroc, eh bien estimé qu'il n'en avait pas reçu rémunération, rémunération qu'il demandait à longueur de pétition auprès du trône, et donc qui a quitté le Portugal et qui est allé prendre du service auprès de Charles Quint, qui va autoriser donc l'affrètement de cette expédition, qui est la grande circumnavigation de 1519-1522, qui est une circumnavigation que, de fait, à cause de sa mort, hein, le 27 avril 1521 sur l'îlot de Mactan aux Philippines, eh bien Magellan n'accomplit pas en son entier. Hein, donc Magellan meurt à peu près, pour ainsi dire, aux deux tiers du périple. Alors c'est une scène très forte. Hein. On a d'abord la chance qu'elle nous ait été décrite par celui qui est, par définition, l'un des survivants de l'expédition, Antonio Pigafetta.
Que nous venons d'entendre.
Un jeune patricien originaire de Vicenza, donc en terre ferme vénitienne, et qui est très attaché à Magellan. Pigafetta va écrire cette relation, qui est la chronique la plus complète de cette circumnavigation. Et donc nous avons la chance d'avoir ce récit de Pigafetta, qui est un récit qui vise à défendre la mémoire de Magellan, qui est mise à mal, en particulier par des mutins qui ont déserté à l'entrée du détroit, qui va porter le nom du grand capitaine, et qui estiment que Magellan a été un terrible chef d'expédition, qu'il a fait injure aux grands officiers espagnols qu'évidemment la couronne de Castille lui avait adjoint pour guider l'expédition. Et donc Pigafetta va se résoudre à narrer cette navigation et la mort du capitaine dans des termes qui rendent justice à sa mémoire. Donc c'est vraiment la mort du grand capitaine.
Glorieuse.
Qui s'effondre les pieds dans l'eau, percé par les flèches des tribus hostiles. Alors évidemment l'histoire telle qu'on l'a ressaisie à travers à la fois le récit de Pigafetta et d'autres témoignages de survivants est un petit peu plus compliqué. Il se trouve que
les
Espagnols venaient d'arriver aux Philippines quelques semaines auparavant. Ils avaient pris langue avec l'un des souverains de l'île de Cebu, dans les Visayas, au centre de l'archipel. Et ils avaient décidé, et grand mal leur en a pris, comme le montre cet extrait, de se mêler des rivalités locales. Et Magellan propose au Raja de Cebu de l'aider à vaincre une présence hostile sur un îlot voisin, Mactan. Et c'est lors de cette bataille, alors même que le Raja de Cebu, le souverain de Cebu, lui déconseille d'y aller, mais en dépit donc des avertissements du Raja de Cebu, qui estime que il risque de n'être pas de taille, eh bien il y va. Et de fait, il y laisse la vie.
Il faut dire qu'il trouve des îles qui sont profondément divisées entre des pouvoirs variés et non pas une sorte d'unité qu'il aurait pu d'un coup conquérir.
De fait, l'archipel philippin n'est pas un monde culturel et politique vierge, bien entendu, à l'arrivée des Européens. C'est un monde de petites sociétés politiques côtières, plus sophistiquées qu'on ne l'a longtemps dit ou cru. C'est en tout cas ce que nous montre aujourd'hui l'archéologie de ces sites. Alors, des petites sociétés en rivalité, y compris guerrières les unes avec les autres, et en rivalité souvent les unes avec les autres, pour s'imposer comme les partenaires commerciaux principaux des grands marchands chinois. Et c'est une époque, le XVIe siècle, où la porcelaine bleue et blanc, Ming, déferle par dizaines ou centaines de tonnes, alors non seulement sur l'archipel des Philippines, mais sur toute l'Asie du Sud-Est. Et c'est évidemment cette manne que cherchent à se procurer les potentats à la tête de ces sociétés. Ce qui permet de rappeler qu'au moment où les Européens, les Espagnols établissent cette jonction à travers le Pacifique avec les Philippines, eh bien c'est un monde qui depuis très longtemps donc est inséré dans des réseaux de négoces internationales complexes et denses. Et il faut rappeler, pour comprendre tout cela, que passé l'expédition de Magellan, la couronne d'Espagne tente à plusieurs reprises d'envoyer depuis la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire depuis le Mexique, tente d'envoyer des expéditions à destination des Philippines pour se rapprocher de ce qui intéresse tout le monde à l'époque, c'est-à-dire les îles aux épices. L'archipel des Moluques, ces petits sultanats de Ternate et de Tidore, où se cultive la noix muscade, le clou de girofle. Mais pendant presque 50 ans, ces expéditions sont des échecs, car s'il est extrêmement facile de traverser d'est en ouest le Pacifique, c'est-à-dire de se laisser porter par les vents depuis les côtes américaines jusqu'aux côtes philippines. Il est en revanche extrêmement difficile d'en revenir et de trouver ce qu'on appelait le tornaviaje, c'est-à-dire le voyage retour. Et donc toutes ces expéditions sont des échecs. Pourquoi ? Parce que l'Asie est portugaise, ces expéditions sont espagnoles, et si l'on ne peut pas revenir en Nouvelle-Espagne, eh bien la seule manière, après avoir touché à l'Asie du Sud-Est, de rentrer chez soi, c'est de se livrer pieds et poings liés aux Portugais. Donc pendant 50 ans après la mort de Magellan, on ne trouve pas de moyen de revenir en territoire espagnol, c'est-à-dire au Mexique. Et en 1565, le petit miracle se produit, l'expédition de Miguel López de Legazpi, qui accoste sur l'île de Cebu, précisément à l'endroit où Magellan avait accosté 50 ans auparavant, eh bien trouve le chemin retour. C'est Andrés de Urdaneta, qui est un régulier, membre de l'ordre de Saint-Augustin, formidable cosmographe, par ailleurs ancien soudard, eh bien, qui trouve le voyage retour, la voie du retour vers le Mexique. Et là, la colonisation, à proprement parler, peut commencer.
Et c'est à ce moment-là que les Espagnols imposent vraiment leur puissance et leur domination, au moins du côté des côtes, sans forcément pénétrer vers l'intérieur. Parlez-nous oui. de Manille, parlez-nous de la façon dont les Espagnols s'installent à Manille, installent leur pouvoir dans un pays qui, finalement, vu d'Espagne, n'est pas considéré comme le plus accueillant. Le climat est difficile, il fait très chaud, très humide. Oui. C'est un peu, comme disent certains voyageurs, un caniveau. C'est un, c'est un lieu de passage qui a beaucoup moins de prestige, évidemment, que l'Indonésie ou que le Japon et la Chine.
Oui, alors c'est au pic de Manille, le déversoir de l'Empire. C'est à la fois le terminus, le point de projection le plus lointain, et puis, vous l'avez dit, le caniveau de l'Empire, qui de fait ne suscite pas véritablement les vocations parmi les colons. Alors c'est un regard espagnol, mais c'est surtout un regard mexicain, puisque 20 à 30% des équipages et des compagnies de gens d'armes qui vont accomplir la pacification, comme l'on disait déjà à l'époque de façon très malheureuse des Philippines, eh bien sont en fait des gens nés au Mexique. Et c'est donc avec leur expérience du Mexique, et du Mexique des plaines centrales, entre Mexico et Oaxaca, que ces hommes vont se livrer effectivement à un climat qui est absolument redoutable et qui va faire des ravages dans les rangs des conquérants, dont il faut dire d'entrée de jeu à quel point ils sont peu nombreux. Et il y a aujourd'hui encore, dans les traités d'histoire espagnole, cette phrase, la conquête espagnole des Philippines entre 1565 et 1600 ou 1550. Et alors, on a tendance à imaginer, d'autant que ce terme de conquête est toujours nanti d'une majuscule. La conquista s'écrit toujours avec une majuscule dans l'historiographie de l'expansion espagnole. Eh bien, on a tendance à imaginer une espèce de bataille rangée avec des milliers de soldats s'affrontant à leurs homologues indigènes.
Ce sont des escarmouches, en fait.
Ce sont des escarmouches, et c'est au maximum, à la fin du XVIe siècle, les Philippines espagnoles, 500 à 600 hommes. Pour un archipel qui compte au bas mot 8 à 12 millions d'habitants, et donc c'est une présence de liserés que celle des Espagnols dans l'archipel. Hein. C'est une poignée d'enclaves côtières qui manque à plusieurs reprises d'ailleurs d'être renversées, en particulier par de célèbres pirates chinois. Et Manille, fondée en 1571 sur les ruines d'un petit potentat et sultanat local, eh bien Manille est une toute petite ville. C'est 300 à 400 Espagnols, tous statuts confondus. Une population chinoise extrêmement importante, de plusieurs milliers d'individus déjà dans les années 1580.
Dont les Espagnols se méfient d'ailleurs beaucoup et qu'au besoin, ils oppriment de leur violence.
Oui, et qu'ils massacreront à compter de l'orée du XVIIe siècle, par peur qu'ils ne se soulèvent contre eux. Et puis passer les palissades, puis les murailles de la ville, eh bien, c'est un monde immense, craint et méconnu, qui s'ouvre sous les pas des soldats espagnols, qui de fait exercent une violence absolument terrible sur les villages. Évidemment, il fallait récompenser les hommes de la conquête, et on l'a fait comme on l'avait fait au Mexique. Legazpi leur distribue des encomiendas, c'est-à-dire des droits de collecte de tribus dans les villages indigènes, indiens, comme l'on disait à l'époque. Et lorsque les capitaines s'en vont collecter ce tribut, ils se livrent à toutes les exactions possibles et imaginables, rafles, incendies des villages, on passe par le fil de l'épée des familles entières pour leur arracher les quelques objets précieux, bijoux en or notamment, qu'ils détiennent, et de ceci s'effraient, s'épouvantent même les réguliers. Voilà, car d'entrée de jeu, cette conquête a été violence, mais elle a aussi, d'une certaine manière, été conscience.
Le remords, de cette violence. Le remords arrive assez vite du côté des Augustins, en particulier, c'est l'ordre qui s'installe le premier. Oui, il y a aussi la fameuse apostrophe du prêtre, lui, dominicain, Bartolomé de las Casas. Je vous en donne un extrait de sa brève relation de la destruction des Indes. Dès que la violence arrive, il y a aussi mise en cause pour des raisons morales de cette violence. C'est un texte de 1552. Sitôt qu'ils eurent connaissance de leur existence, les Espagnols entrèrent parmi ces douze brebis, tels des loups et des tigres et des lions infiniment cruels et qui auraient été tiraillés depuis des jours par la faim. Et ils n'ont rien fait d'autre que de les réduire en miettes, de les tuer, de les plonger dans la détresse, de les affliger, de les tourmenter et de les détruire par des façons de cruauté étranges et inédites et variées et qui ne sont jamais vues, ni lues, ni entendues. Est-ce que sans forcer le trait, Romain Bertrand, vous diriez que la violence qui émerge aujourd'hui aux Philippines, plus encore qu'ailleurs, pourrait s'enraciner dans cette longue durée d'affrontements sanglants ?
Il y a d'une certaine manière une histoire toujours renouvelée de la violence. C'est-à-dire qu'elle ne se réduit d'une certaine manière jamais totalement à ses généalogies. Moment anticommuniste, par exemple, aux Philippines, dans les années 1950-1960, dont probablement nous parlerons, serait une matrice plus proche. Voilà.
Comme d'ailleurs en Indonésie du temps de Sukarno, où on a écrasé des centaines de milliers de communistes.
Et à cette violence anticommuniste, l'Europe et les États-Unis ne sont pas du tout étrangers. Cette histoire de la violence qui s'est exercée au moment de la conquête des Philippines, comme auparavant de la conquête des Antilles puis du Mexique, dont parle Bartolomé de las Casas, dont vous venez de citer les propos, c'est une violence qui a profondément affecté non seulement ceux qui l'ont subie, mais aussi ceux qui l'ont exercée. Il y a probablement quelque chose d'assez nouveau et terrible au XVIe siècle qui naît. Alors, ça n'est pas la dévastation à grande échelle que le monde avait connue et bien auparavant, Europe comprise, mais c'est précisément l'émergence de la critique de cette violence dans le temps même où elle s'accomplit. Voilà que les réguliers, les Augustins, qui ont l'exclusive du travail missionnaire aux Philippines jusqu'au sortir des années 1570, accompagnent, et c'est leur mandat, pour modérer l'armée de terre et de mer chrétienne dans ses expéditions contre les villages.
C'est pour ça d'ailleurs que vous avez intitulé l'un de vos deux livres sur ces sujets, Le long remords de la conquête. Ce long remords accompagne la conquête, comme vous le dites, depuis ses débuts. Ces débuts même.
Exactement. Ce qui donne d'ailleurs pour l'historien un lieu d'archives assez étonnant, ce qui moi m'a beaucoup frappé. Je venais de tout autre horizon, je n'avais jamais travaillé dans cette archive royale espagnole. C'est que la même action, décrite par les capitaines qui l'ont perpétrée, puis par les réguliers qui l'ont censuré, prend des connotations radicalement différentes. Les soldats et les capitaines de la conquête écrivent au roi pour demander reconnaissance et rétribution de leur service militaire aux Philippines, et donc décrivent par le menu les actes de violence auxquels ils se sont livrés pour en obtenir récompense.
Il y a un aspect des choses qui d'ailleurs est très proche de l'idée de violence. Cette inquiétude de la magie, de la sorcellerie. Racontez-nous cet épisode du gouverneur Sand qui est pris dans cette chaleur, dans cette solitude, et qui voit dans un enfant d'une dizaine d'années l'expression possible d'un mauvais sort qui lui est jeté, les rêves de cet enfant, qu'il va d'ailleurs punir de façon très brutale.
Oui, c'est une affaire qui a lieu en 1577. Deux ans après qu'un nouveau gouverneur, Francisco de Sande, ait été envoyé depuis la Nouvelle-Espagne, donc le Mexique, aux Philippines. La particularité de ce gouverneur, c'est qu'il est le premier à n'être pas issu de la cohorte des conquistadors. Ce n'est pas l'un de ceux qui ont marché aux côtés de Legazpi, comme les anciens soudards aiment à s'appeler. Et il est sur la défensive, à la fois par rapport précisément aux vieux soudards de la conquête et par rapport à un monde que d'entrée de jeu il déteste. En 1577, il instruit un procès pour non seulement sorcellerie, mais atteinte à l'autorité de la couronne, à l'encontre de Diego de Avila, qui est un enfant qui, au moment où l'affaire prend place, a entre 8 et 11 ans. C'est un procès terrible qui va s'étirer des semaines durant et qui va aboutir à une condamnation encore plus terrible, c'est-à-dire 10 ans de galère. Voilà, 10 ans des galères du roi pour un enfant de cet âge-là, c'est évidemment l'équivalent d'une condamnation à mort. Puisqu'un solide gaillard résistait rarement plus de 2 ou 3 ans sur les dites galères. Et à travers cette histoire, oui, ce qui surgit, c'est... alors non seulement... l'angoisse des Espagnols par rapport à un monde qu'ils essayent de prendre mais qu'ils ont du mal à comprendre, mais aussi la manière dont eux-mêmes sont pris par ce monde. C'est-à-dire que les Espagnols sont de grands usagers des magies, des pharmacopées, des pratiques thérapeutiques locales.
Ils y croient.
Ils y croient et ils se font soigner, le cas échéant, par des guérisseuses de village. Les dames de la bonne ou de la haute société coloniale de Manille font appel à des praticiennes rituelles philippines, les babaylan, pour par exemple ensorceler leurs rivales en amour. Et donc on voit un monde espagnol qui est en fait d'une certaine façon totalement pris et en prise sur ce monde magique ou rituel des Philippines.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il y a un personnage qui est resté un personnage mythique de l'effort pour l'indépendance, d'autant plus qu'il a été finalement fusillé. C'est un peu José Martí à Cuba. Et il s'appelle José Rizal. Nous allons entendre un poème de lui, son poème ultime, au moment où il va être fusillé et qu'il le sait. Écoutez-le et après vous nous le présenterez, ce José Rizal qui est installé comme symbolique d'un combat et d'un échec provisoire.
Adios, patria adorada, región del sol querida, Perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida, y si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien.
Adieu, patrie adorée, pays chéri du soleil, perle des mers d'Orient, notre Éden perdu. Je m'en vais, joyeux de te donner ma triste et sombre vie. Et fût-elle plus brillante, plus fraîche et plus fleurie, je la donnerais encore pour toi, pour ton bien. Sur les champs de bataille, dans le délire des luttes, d'autres s'offrent tout entiers, sans hésitation, sans remords. Qu'importe le lieu du sacrifice, les cyprès, le laurier ou le lys, l'échafaud ou la rase campagne, le combat ou le supplice cruel. L'holocauste est le même quand le réclame la patrie ou le foyer. Je meurs au moment où je vois se colorer le ciel, quand surgit enfin le jour derrière la cagoule endeuillée de la nuit. S'il te faut de la pourpre pour teindre ton aurore, prends mon sang, épands-le à l'heure propice, et que le dore un reflet de sa lumière naissante. Mes rêves d'enfant à peine adolescent, mes rêves de jeune homme déjà plein de vigueur, furent de voir un jour, joyau des mers d'Orient, tes yeux noirs séchés, ton doux front relevé, sans plis, sans rides, sans tache de honte. Songe de ma vie entière, ô mon ardent et brûlant désir. Salut, te crie mon âme qui bientôt va partir. Salut ! Ah, qu'il est beau de tomber pour que tu sois libre, de mourir pour te donner la vie, de mourir sous ton ciel, et dans ta terre enchantée, de dormir pour l'éternité.
Dormir pour l'éternité, Romain Bertrand.
Et c'est ce qu'il fit d'ailleurs le matin qui suivit la rédaction de ce poème. Il est fusillé. José Rizal, on pourrait dire c'est la figure solaire du nationalisme philippin.
Qui se développe au long du 19e siècle.
Qui se développe au long du 19e siècle et qui connaît un temps fort avec la création en 1892 d'une association qui est en fait une société secrète révolutionnaire qui s'appelle la Katipunan. Qui sera en particulier dirigé par Andrés Bonifacio.
Qui sera également fusillé d'ailleurs.
Voilà. Et la Katipunan a un projet, un programme insurrectionnel et se réclame de Rizal, qui lui va désavouer ses velléités de mener violente, mais qui du coup va devenir particulièrement suspect aux yeux du pouvoir colonial, qui va l'arrêter, l'exiler, et pour finir, après qu'il ait réussi à fuir un temps à Cuba, le fusiller.
C'est un romancier, c'est un poète.
Oui, Rizal, c'est l'archétype de l'intellectuel nationaliste polyglotte qui a beaucoup voyagé, séjourné en Europe, non seulement à Madrid et Barcelone, mais aussi bien à Paris et Berlin, qui va, par exemple, traduire le Guillaume Tell de Schiller en tagalog.
C'est une des langues des Philippines.
Qui voilà, aujourd'hui, l'une des principales langues des Philippines. C'est un médecin, c'est un chirurgien ophtalmologue de spécialisation. C'est aussi un littérateur, journaliste et romancier, qui publie deux romans absolument magnifiques, El Filibusterismo et Noli me tangere, qui sont deux romans, alors qui nous plongent dans un monde de colons cupides, de prêtres voyous, d'administrateurs coloniaux corrompus. Et Rizal, c'est tout ça à la fois. Donc c'est cette figure à la fois érudite et militante. Et c'est cette figure aussi du nationaliste qui refuse le passage à la violence. Voilà, c'est pour ça que dans cette histoire au long cours de la violence toujours renouvelée aux Philippines, Rizal occupe cette position si particulière parce que il est celui dont la violence révolutionnaire se réclamera et qui pourtant jusqu'au bout, d'une certaine manière, la refuse.
Et cette violence, elle se perpétue sous la forme coloniale, précisément 2 ans après sa mort, puisque c'est le temps où les États-Unis viennent se substituer à l'Espagne pour faire des Philippines une colonie. C'est le moment aussi où les Espagnols sont chassés de Cuba par les Américains. C'est la grande guerre entre Espagne et États-Unis. On a souvent oublié que les Américains ont été des colonisateurs très violents eux-mêmes. Et ils l'ont été pour conquérir contre les Espagnols les Philippines et ils l'ont été pour imposer dans les années qui ont suivi leur domination.
Oui, tout à fait. Alors, bon, évidemment, l'Empire espagnol a compté des années 1820 et de l'accession à l'indépendance du Mexique et du Pérou. Cet empire s'effiloche. C'est un empire particulièrement branlant. Évidemment, la perte de la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire du Mexique, pour l'Espagne, redouble les problèmes de communication avec les Philippines. Alors tout ça commence d'ailleurs, cette guerre hispano-américaine, par un incident qui ne prend pas place aux Philippines, mais à Cuba. Un destroyer américain est coulé dans le port de Cuba.
Le Maine.
Exactement, l'USS Maine. Plus de 260 morts. C'est une guerre qui va peu durer, à la fois pour Cuba, où les Américains vont envoyer un corps expéditionnaire de 17 000 hommes, commandé d'ailleurs par un certain Theodore Roosevelt. Et puis c'est une guerre qui aussi aux Philippines va peu durer, puisqu'en fait, les Américains, dans un premier temps, vont soutenir ce mouvement révolutionnaire dont nous avons précédemment parlé, la Katipunan, qui s'est dotée d'une branche militaire, dirigée par Emilio Aguinaldo. Les États-Unis promettent leur soutien à cette violence révolutionnaire qui s'exerce contre les Espagnols. Et d'ailleurs, ce sont les Philippins qui vont livrer les prisonniers espagnols aux Américains. Sauf que dans un second temps, les Américains ne tiennent pas parole, ne reconnaissent pas la proclamation de l'indépendance par la Katipunan et deviennent un pouvoir colonial qui, de fait, va briser tout un ensemble de résistances politiques. Alors, les États-Unis s'en tirent aussi par une pirouette, mais qui est liée à cette formidable situation en contradiction de devenir pour la première fois véritablement une puissance coloniale, hein, hors continent américain, à une époque où s'énonce la doctrine Wilson. Et donc évidemment c'est assez difficile de parler droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Wilson, c'est le président démocrate des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale.
Exactement, et donc c'est assez dur d'avoir à la fois ce discours sur le droit des peuples et la liberté des nations, et de devenir un pouvoir colonial aux Philippines.
Imposant son pouvoir par des campagnes de pacification extrêmement
violentes, hein, extrêmement rudes. Alors, ils s'en tirent par, en fait, la création à compter de 1935 d'un régime transitionnel, c'est-à-dire un statut d'autonomie visant à préparer l'indépendance. Donc, il y a dans cette histoire de la colonisation américaine des Philippines, hein, de 1898 à 1946, hors interlude de l'occupation japonaise, cette rupture des années 1930. Il n'empêche qu'effectivement, les États-Unis se comportent comme un pouvoir colonial, cruel et curieux à la fois. Il y a une ethnologie coloniale américaine qui se développe par exemple aux Philippines à l'époque et qui constitue la première véritable expertise états-unienne des mondes musulmans.
Il voudrait d'ailleurs faire une sorte de laboratoire de la démocratie, mais c'est une illusion.
Ah, c'est une illusion, de fait. C'est-à-dire que la recréation d'une scène politique philippine dans les années 1930, sous la forme de cette idée donc d'un moment préparatoire à l'indépendance, cela se fait au prix de la suppression de tout un ensemble de révoltes populaires et paysannes, et une suppression qui est une suppression extrêmement violente.
Donc pour unifier le pouvoir américain sur cette colonie américaine, il y a des efforts militaires qui sont en contradiction avec l'affichage de la capacité de ce pays à installer la démocratie aux Philippines. Ce n'est pas le seul lieu, d'ailleurs, où les Américains défendront cette idée de la démocratie proposée ou imposée par eux au fil de l'épée.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a dans les années 1930 ce qui devient le grand problème de tous les colonisateurs, à savoir la montée en puissance des mouvements communistes insurrectionnels. Au tournant des années 1930, aux Philippines comme dans bien d'autres lieux de l'Asie du Sud-Est, émergent de mouvements de contestation populaire, des partis communistes, des organisations politiques se réclamant du communisme. Des années 1930 aux années 1960, passer d'une certaine manière la césure de l'indépendance, hein, qui ne fait pas rupture de ce point de vue, c'est cet agenda de la lutte anticommuniste qui va unir de nouvelles élites nationalistes conservatrices aux Philippines, comme ailleurs, en Indonésie ou en Malaisie, et d'anciennes puissances coloniales, les États-Unis aux Philippines, la Grande-Bretagne pour la Malaya qui devient la Malaisie. Il y a un grand moment anticommuniste qui s'ouvre dans les années 1930 et qui nous amène jusqu'au cœur de la violence des années 1960-1970.
Mais entre-temps, comme vous le disiez, il y a l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces Philippines ont été colonisées successivement, il faut le rappeler, par trois pays, c'est-à-dire l'Espagne, les États-Unis et puis le Japon. Et la période japonaise est au moins aussi violente, pour ne pas dire plus, que les autres moments que nous avons évoqués. C'est le temps des oppositions, en particulier avec les forces américaines, qui ont laissé des souvenirs de sang et souvent d'horreur.
Oui, tout à fait. Hein, la conquête éclair des Philippines américaines par le Japon se traduit par des épisodes de en particulier la marche à la mort de Bataan en avril 1942.
Hein, Bataan, c'est quoi ?
Bataan, c'était le lieu où s'est accompli donc cette vers lequel cheminaient ces prisonniers américains et qui sont morts dans des conditions terribles.
Eh bien, écoutez cette archive américaine qui en rend compte et qui est de 1942 et qui évoque le mot fameux de MacArthur qui a été obligé de partir de la forteresse de Corregidor avec un mot qui est désormais gravé dans le marbre : je reviendrai. Il est revenu ensuite, mais il a fallu quelque temps.
Nous avons commencé notre marche à la mort par groupe de 100, en tout 3 à 4 000 sur 4 rangs. Nous avions 3 gardes japonais pour 100 américains. Je n'ai pas vu d'officiers. Ils frappaient les nôtres sur le visage et les battaient brutalement.
Douglas MacArthur, supreme commander in the South Pacific.
Douglas MacArthur, commandant suprême dans le Pacifique. Après Bataan, le président Roosevelt envoie MacArthur en Australie. En débarquant sur votre sol, j'ai promis au peuple philippin, je reviendrai.
C'est une archive des actualités américaines, vous avez reconnu le ton. Ce temps de l'occupation japonaise a laissé des traces profondes dans l'esprit, dans la mémoire philippine, toujours du côté de la violence. C'est le temps aussi de l'oppression, des tortures, des femmes de réconfort, comme on disait. C'est l'obligation faite aux femmes philippines d'être prostituées.
C'est effectivement le recrutement forcé de femmes philippines à des fins de prostitution envers les soldats de l'armée nippone. Oui, c'est une période absolument terrible aux Philippines, comme d'ailleurs en Indonésie et en d'autres lieux de l'Asie du Sud-Est, avec des exécutions publiques, avec aussi des saisies de riz qui provoquent des disettes absolument terribles dans les campagnes. Tout ceci s'exerçant d'ailleurs de la part du Japon sous le régime d'un discours qui est un régime de promotion des nationalismes locaux. Le Japon se présente, en dépit de la cruauté qu'il déploie à son arrivée, comme la puissance asiatique qui sauve ses sociétés d'Asie du Sud-Est de la colonisation européenne. Évanouée d'ailleurs avec certains segments des mouvements nationalistes sur fond de l'horreur quotidienne dans les campagnes, des alliances qui vont être rompues par, en l'espèce, bien le retour des Américains, I shall return, et de fait, les Américains sont revenus et en force en juillet 1944. Mais l'occupation japonaise, malgré sa brièveté dans le temps, reste effectivement un instant de mémoire traumatique très important, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui encore, la relation avec le Japon, qui est l'un des grands voisins asiatiques, et d'ailleurs l'un des grands financiers de l'aide au développement aux Philippines, est extrêmement importante. Donc cette question, par exemple, des femmes de réconfort, vous le savez, continue à susciter des polémiques un peu partout en Asie du Sud-Est.
En Corée, par exemple.
En Corée, oui.
Donc les Japonais s'en prennent à la fois à la population malaise, qui est dominante, à la population musulmane, qui n'est pas sans importance, et qui est à peu près 10% de la population. Parce que nous n'avons pas encore parlé de l'islam. C'est une des données importantes qui remonte d'ailleurs aux origines même que nous évoquions tout à l'heure de la colonisation occidentale aux Philippines.
Alors, l'islamisation des Philippines, alors c'est une histoire d'ailleurs assez compliquée, il y a probablement deux temps. Mais oui, c'est une occidentalisation, l'islamisation. L'islam vient de l'Ouest, à compter des 14e, 15e siècles. Et la question du sud musulman des Philippines est une question qui empoisonne la vie politique de l'archipel depuis le début de la conquête espagnole et, pour ce qui nous occupe présentement, depuis les années 1940-1950.
Jusqu'à
aujourd'hui, puisque ce sud musulman, et on parle ici essentiellement de la grande île de Mindanao, dont est originaire, en tant qu'ancien maire de Davao, le président Duterte.
Davao est précisément la ville essentielle de...
Exactement. C'est la grande capitale politique et administrative de Mindanao. Eh bien, les relations de ce sud musulman avec le nord, avec Manille, qui a toujours été considéré comme un pouvoir à la fois hispanisé et chrétien, eh bien, restent extrêmement difficiles. Il y a eu un mouvement irrédentiste, insurrectionnel moro, c'est-à-dire musulman du sud, à compter des années 1960 et surtout 1966, puis des accords de paix en 1996 qui ont concédé un statut de large autonomie à Mindanao et qui ont un peu désamorcé un conflit qui, par ailleurs, peut très facilement renaître. Donc voyez, si vous accumulez d'une certaine manière l'ensemble de ces données de violence, la violence de la lutte anticommuniste, la violence des affrontements entre le gouvernement central et cet irrédentisme musulman du Sud, eh bien vous voyez se constituer le terreau de cette société, qui est une société effectivement dans laquelle le taux d'armes à feu dans la population est extrêmement élevé.
Plus encore qu'aux États-Unis, ce n'est pas peu dire.
Oui, sauf qu'aux États-Unis, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, le président lui-même n'appelle pas à l'assassinat extrajudiciaire.
Même si certains ont expliqué que Duterte était le Trump depuis quelques semaines, était le Trump philippin, mais cela, c'est une affaire à suivre. Il y a un autre aspect des choses qui est le rôle de l'Église catholique, puisque nous avons montré que à l'époque de la conquête coloniale, l'Église avait eu une position assez ambivalente, à la fois le désir de catéchiser, d'évangéliser les populations, et en même temps, très vite, des critiques à l'égard de la brutalité des capitaines, des soudards. Aujourd'hui, l'Église catholique a pris, semble-t-il, quelques distances par rapport au pouvoir de Duterte, peut-être aussi parce que celui-ci a traité, à l'occasion de sa visite récente, le pape de fils de pute, ce qui était assez violent, non ?
Ce qui incite effectivement à laisser se distendre les relations. De fait, oui, il y a cette ambivalence structurelle, propre au moment de la conquête, de l'Église par rapport à la violence. D'un côté, l'Église, à travers les réguliers, condamne cette violence dans le sillage de Bartolomé de las Casas, dans l'esprit de Vitoria et de l'école de Salamanque.
Las Casas que nous citions tout à l'heure.
Exactement, c'est la grande censure morale de la conquête. Mais d'un autre côté, non seulement l'Église, à travers les ordres et les congrégations, eh bien, s'implique dans la réalité coloniale pour accéder aux villages et catéchiser, évangéliser, mais elle devient aussi un important propriétaire foncier. Et jusqu'au cœur du XIXe siècle, et même assez avant dans le XXe siècle, eh bien, l'Église des Philippines, c'est aussi un grand propriétaire foncier qui a bénéficié de l'ensemble de ces territoires qui ont été confisqués aux sociétés locales.
Si nous terminons cette conversation sur Manille, puisque nous l'avons commencé par la capitale, cette ville qui était détestée par les premiers gouverneurs, Sandé, que nous évoquions tout à l'heure, disait qu'il n'en supportait plus les torpeurs ni les saveurs, terre chaude et humide. Il n'y a rien pour se protéger du soleil, car les parois des maisons sont faites de branchages et de tiges, et leurs toits sont faites de feuilles de palme. La nourriture, disait-il, est atroce. C'est un regard plus positif qu'un journaliste de la radio française nous propose en février 57, lorsque il va dans l'émission Le Monde comme il va décrire son arrivée dans la capitale des Philippines. C'est une mise en onde de Marguerite Tarrer.
On prétend que les baies d'Alger, de Manille et de Rio de Janeiro sont les plus belles du monde. Dès que la passe de Manille est franchie, la ville apparaît au fond de la baie. Il faudra plus d'une heure pour l'atteindre. Elle vient sous la forme de deux longs cordons lumineux successifs, animé par l'éclat furtif et multicolore de nombreuses enseignes au néon. Pour le reste, seuls apparaissent les feux des bateaux qui, comme le nôtre, devront rester en rade en attendant le jour. Le lendemain, dès les premières heures de l'aube, la ville sort de son mystère, drapée de blanc, orgueilleuse des grands immeubles qui bordent le boulevard Dewey, en souvenir du général américain qui conquit les Philippines en 1897. Gênée des quelques clochers hâtivement rebâtis pour remplacer ceux des églises construites dans la vieille ville espagnole, qui furent rasées par les bombardements américains durant l'occupation japonaise. Fière du beffroi qui surplombe l'hôtel de ville et des hautes constructions qui, dans le centre, lui confèrent, comme à Washington, à New York ou à San Francisco, un brevet de capitale économique, financière et politique. Manille, ville énorme, contrastée, plaçant ses édifices publics aux formes victoriennes comme d'énormes pièces montées au milieu de larges terrains vagues où l'on s'étonne de ne point voir y paître du bétail. Elle accumule de hauts buildings commerciaux autour de ce que fut la vieille ville espagnole maintenant rasée, où ne subsistent que quelques carcasses d'églises dans lesquelles des sans-logis se sont réfugiés avec leur cortège de tôles ondulées, de caisses, de bâches et de misères.
Moi, ce qui me frappe à l'écoute de cet extrait, c'est sa très grande actualité. Ce qui m'a toujours frappé dans Manille, c'est qu'à la différence d'autres mégalopoles d'Asie du Sud-Est...
Immense, 13 millions d'habitants aujourd'hui.
Oui, mais ce n'est pas un centre urbain réservé aux nantis et ceinturé, hein, entouré par des banlieues pauvres. C'est un tissu urbain qui est mité par des zones de très grande pauvreté, ce qui donne des situations de coexistence sociale explosive, c'est-à-dire entre le petit quartier nanti claquemuré sur lui-même et à quelques dizaines de mètres, eh bien, des poches de très très grande misère. Et de ce point de vue-là, il faut évidemment voir que la guerre aux petits trafiquants et aux usagers, hein, de drogue dure qu'a déclaré Duterte, c'est aussi pour une large part une guerre aux pauvres. Il y a quand même une dimension sociale ou sociologique importante. Parmi ces 6000 morts, ma foi, me semble-t-il en tout cas, peu appartiennent à la jeunesse aisée des élites du régime, qui par ailleurs doit être elle aussi assez largement consommatrice de produits stupéfiants divers et variés. Donc ce sont bien les quartiers populaires qui sont ciblés par cette violence extrajudiciaire aujourd'hui. Ça provoque d'ailleurs une situation sanitaire absolument catastrophique, puisque les usagers de drogues dures, qui sont par ailleurs porteurs de maladies, qui développent des pathologies en rapport avec leur usage de la drogue, eh bien, n'osent plus se rendre dans les centres de soins, de peur d'être identifiés par les groupes paramilitaires ou la police et d'être exécutés.
Il s'agit de la drogue du pauvre, c'est-à-dire la méthamphétamine.
Oui, qui est une drogue qui fait des ravages partout en Asie du Sud-Est, hein, tout particulièrement en Thaïlande. D'ailleurs, il y a un précédent sanglant à l'expérience de Duterte, qui est dans les années 1980, l'arrivée au pouvoir en Thaïlande de Thaksin Shinawatra, qui en tant que Premier ministre avait lui aussi lancé une guerre à la drogue, qui s'était soldée par plusieurs milliers de victimes, hein, par un peu moins de 3000 victimes. Duterte reprend, hein, cette espèce de programme choc. Simplement, on est dans des échelles de meurtres qui sont tout de même assez impressionnantes, puisque depuis son entrée en fonction, c'est-à-dire depuis à peine un peu plus de 6 mois, on en est déjà à plus de 6000 victimes.
Il n'a pas à cacher son jeu, puisqu'il dit qu'il voulait, le jour où il partirait à la retraite, il a 71 ans, à la fin de son mandat, partir avec la réputation d'Amin Dada. Vous savez, c'est le responsable de 300 000 morts en Ouganda. Et il a annoncé le 30 septembre ceci: Hitler a massacré 3 millions de juifs, il y a 3 millions de drogués, je serais heureux de les massacrer. Et dernière citation, ce qui ramène à l'Église catholique, il a regretté de ne pas être, je cite, passé le premier sur une religieuse australienne qui avait été violée et tuée en 1989 parce qu'elle était, disait-il, si belle. On comprend pourquoi j'ai souhaité que nous parlions de la violence aux Philippines à travers les âges avec votre collaboration, Romain Bertrand.
Oui, ce que vous venez de rappeler donne la mesure du personnage, dont il faut souligner par ailleurs qu'il entend entretenir une relation extrêmement critique avec les États-Unis, puisqu'il s'est prononcé pour un retrait militaire américain ou un désengagement militaire américain aux Philippines.
En se rapprochant de la Chine à laquelle il a rendu visite.
Exactement. Et alors évidemment, on attend avec une certaine impatience la teneur, en tout cas pas la tenue, des échanges que messieurs Trump et Duterte auront dans les mois qui viennent. Mais on a là évidemment deux personnages qui vont remettre assez sérieusement en cause un certain nombre d'équilibres politiques en Asie du Sud-Est s'ils continuent l'un et l'autre dans les voies qu'ils ont choisies. Donc il faut voir que Duterte, il y a cette horreur domestique de la campagne contre les drogues, mais c'est quelqu'un qui perturbe très sensiblement le jeu diplomatique et militaire régional en Asie du Sud-Est et qui inquiète beaucoup. Toutes les capitales de la région.
C'est une affaire naturellement qui sera à suivre. Je terminerai sur une dernière question à propos de la colonisation et de ce qu'il en reste aujourd'hui dans la violence sous-jacente ou exprimée qui s'exprime aux Philippines par son président, mais pas seulement. En citant ce mot de Willem Walraffen, un journaliste à propos de l'Indonésie, mais la question peut se poser aussi à propos des Philippines, il avait écrit « Les Hollandais n'ont été aux Indes que comme des mouches sur du lait ». À vous écouter depuis une heure, j'ai le sentiment qu'on ne pourrait pas dire exactement la même chose des Espagnols aux Philippines, même s'ils n'ont pas eu le rôle ou l'attitude que leur historiographie explique. Ils ont néanmoins marqué et ils expliquent cette violence qui court à travers l'histoire des Philippines.
Oui, alors des mouches sur du lait, qui est un propos tenu dans les années 1930, donc au sortir de siècles de présence. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à la fois pour l'Indonésie hollandaise et pour les Philippines espagnoles, par ailleurs, deux expériences très dissemblables de colonisation. Non pas que les mouches n'ont pas désespérément gesticulé à la surface du lait et qu'elles n'aient pas provoqué des remous, et des remous en l'espèce sanglants, mais plus profondément que l'historicité propre de ces sociétés d'Insulinde, du monde malais, n'a pas été abolie par le fait de leur rencontre malheureuse avec l'Europe. Ce qui est manière de dire qu'elles ont continué l'aventure de leur histoire par-delà, leurs expériences coloniales. Et ma foi, on parle aujourd'hui encore des langues qui étaient parlées au XVIe siècle aux Philippines, comme on parle javanais en Indonésie, de la même façon ou presque qu'on le parlait bien avant l'arrivée des Hollandais. Alors, ça n'est pas manière de minimiser, évidemment, la violence du contact avec l'Europe. C'est de rappeler que la conquête ne peut jamais être totale. Et c'est rappeler, ce sera vraiment peut-être le dernier mot sur tout cela, que cette violence a affecté aussi bien les sociétés colonisées que le colonisateur. Et c'est ce que j'ai peut-être maladroitement essayé de dire avec cette idée du remords de la conquête. C'est que l'Europe s'est inventée là une manière tout à la fois de se fustiger et de s'absoudre du drame qu'elle provoquait. Ce qui est frappant dans cette conquête espagnole du XVIe siècle, c'est que on ne cesse de battre sa coulpe, et ça ne change par ailleurs absolument rien, la violence qui s'exerce au quotidien. Alors cette façon de provoquer la violence, de l'attiser tout en disant à quel point elle est détestable, ça c'est une figure extrêmement moderne du rapport de l'Europe à la violence en général et à sa propre violence, et c'est peut-être aussi cela que nous héritons de cette conquête espagnole des Philippines.
Merci beaucoup Romain Bertrand, je laisserai nos auditeurs et nos auditrices y réfléchir. Ce livre qui s'appelle « Le long remords de la conquête » avec comme sous-titre « Manille, Mexico, Madrid » qui part de l'affaire de cet enfant que nous avons évoqué, de Diego de Avila, condamné à 10 ans, ce livre développe ce que vous venez de nous dire. Et ça n'est pas maladroit, là vous cherchez un compliment. Il est paru au Seuil en 2015. L'autre ouvrage majeur que vous avez publié s'appelle « L'histoire à part égale », paru également au Seuil en 2011 et qui insiste sur la nécessité intellectuelle et probablement politique de considérer cette histoire à part égale du point de vue de ceux d'en face et du point de vue qui a été le nôtre, et par là faire évoluer l'historiographie. Vous y contribuez de façon importante. Merci beaucoup Romain Bertrand. Vous avez,
merci.
Mes chers auditeurs, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, nos archives, et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster. Allons, il faut peut-être que je me fasse à cette formulation. Podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la police à Paris, au temps des Lumières, au XVIIIe siècle, ce qui permettra, je crois, des rapprochements assez stimulants. Enfin, vous verrez bien. Et je recevrai pour en parler Vincent Milliot. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte. Une émission réalisée cette semaine par Delphine Lemaire, avec Dali Ya à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques minutes, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.